Les podcasts du Collège de France, biologie.
Bonjour, bienvenue. Et nous allons continuer aujourd'hui l'exploration de cet aspect particulier du métabolisme énergétique, de la neuroénergétique, qui concerne la question du glycogène dans le système nerveux, et en particulier le glycogène astrocytaire. Et vous verrez qu'en fait, il y a toute une série d'échanges régulés entre neurones et astrocytes autour de ce glycogène, et qu'il y a même une fonction physiologique qui semble poindre sur la base de résultats aussi bien in vitro que in vivo. Donc en deux mots, pour ceux qui n'étaient peut-être pas là la dernière fois, deux, trois diapos de remise en thème. Donc, vous souvenez, le glycogène est essentiellement localisé au niveau des astrocytes dans le système nerveux central. Quelques neurones de grande taille dans le tronc cérébral présentent aussi du glycogène, mais disons, pour la simplicité, on va dire que 95% du glycogène cérébral est localisé dans les astrocytes. C'est vraiment une sorte de marque, un marqueur biochimique, même morphologique, en microscopie électronique. Vous voyez ces grains qui sont denses, électrons denses, qui correspondent à ces granules de glycogène. Et je crois que je vous avais dit la dernière fois que cette image est un petit peu, entre guillemets, trichée, dans le sens qu'elle a été prise chez un animal qui avait été anesthésié profondément par le pentobarbital pendant plusieurs heures. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'anesthésie augmente de manière très considérable les stocks de glycogène. Comme là, c'est intéressant, parce qu'il y a quand même une modification claire de l'électroencéphalogramme, de l'activité synaptique par l'anesthésie, et ceci reflète au niveau du contenu astrocytaire en glycogène. Je vous ai aussi dit que, bien sûr, le cerveau n'est pas un organe de stockage de glycogène comme le foie. En fait, il contient 100 fois moins de glycogène que le foie, 10 fois moins que le muscle squelettique. Mais, comme je l'ai mentionné très brièvement la dernière fois, ces niveaux de glycogène, et que je vais étendre aujourd'hui, ces niveaux de glycogène sont hautement régulés. C'est un pool très dynamique du point de vue biochimique. Et je vous avais effectivement illustré ceci en vous montrant que nous avions montré il y a plusieurs années que deux neurotransmetteurs, le VIP et la noradrénaline, exerçaient un effet glycogénolytique, donc de mobilisation du glycogène. Et j'avais mis ça en relation avec la morphologie des circuits neuronaux qui contiennent le VIP et la noradrénaline. Le VIP correspondant étant contenu au niveau de ces neurones bipolaire, radio, population extrêmement homogène chez le rongeur, qui définit, je vous avais montré cette analyse quantitative, qui en fait définissait ce que l'on pourrait appeler des colonnes de cortex d'une centaine de microns de diamètre. Et la proposition que nous avions faite à l'époque était que finalement ces neurones à VIP, qui par ailleurs reçoivent des afférences spécifiques thalamocorticales ou cortico-corticales, donc qui sont activées par des inputs, des entrées bien précises liées à une modalité ou à un traitement associatif de l'information, eh bien, ces neurones, finalement, pourraient être en mesure de traduire une activation spécifique au niveau de ces colonnes en un message métabolique, c'est-à-dire en la mobilisation de substrats énergétiques additionnels, si vous voulez. Et ceci était à mettre en contraste avec l'effet de la noradrénaline, qui, elle, est contenue, comme vous le savez bien, dans des circuits qui ont une disposition tout à fait différente, c'est-à-dire que les corps cellulaires se trouve essentiellement dans quelques milliers de neurones, enfin qu'il y a quelques milliers de neurones qui sont contenus ici dans le locus ceruleus, dans le tronc cérébral, et que ces neurones projettent de manière diffuse à travers le système nerveux, en particulier dans le cortex, dans le néocortex, où ils entrent par le pôle frontal, adoptent ensuite une trajectoire tangentielle, horizontale, ce qui fait que en fait, ces fibres noradrénergiques vont pouvoir exercer cet effet métabolique de manière globale à travers des régions corticales fonctionnellement distinctes. Donc on s'éloigne de l'effet AVIP qui est lié à des modalités, si vous voulez, mais c'est quelque chose de diffus, de global, dont on pourrait dire qu'elle joue un rôle, que cet effet joue un rôle pour mobiliser, pour préparer en quelque sorte le cortex de manière globale. Et il est intéressant de noter que les neurones du locus ceruleus sont actifs particulièrement lors de présentations de stimuli sensoriels, multimodaux, imprévus, on va dire, et non douloureux. Donc c'est vraiment une sorte de système de préparation, si vous voulez, du cortex du point de vue énergétique et de manière globale. Et très brièvement, nous avons au cours des années exploré plus en avant cette glycogénolyse, et en fait nous avons, bien que nous ayons testé un grand nombre de neurotransmetteurs ou de substances neuroactives, finalement les molécules qui mobilisent le glycogène sont relativement peu. Il y a le VIP, comme je viens de l'indiquer, et le PACAP, qui est un peptide qui est analogue au VIP, et ils agissent sur des sous-types de récepteurs spécifiques. Et ce qu'il convient de noter, c'est que la voie de signalisation intracellulaire est dans les deux cas la voie de l'AMP cyclique et de la protéine kinase A, enfin finalement comme le glucagon ou l'adrénaline au niveau hépatique par exemple. Et puis la noradrénaline, là la pharmacologie est un peu plus varié, dans le sens qu'il y a bien un effet bêta-adrénergique AMP dépendant, mais qu'il y a également un effet alpha-1 adrénergique qui est médié par la protéine kinase C. Ensuite, des purines, l'adénosine est également actif via l'acide, via le CAMP, des récepteurs A2 probablement, et l'ATP également. Vous savez que l'ATP peut jouer un rôle de médiateur intercellulaire sur des récepteurs purinergiques de type P2Y, il nous a semblé de mettre en évidence. Donc vous voyez que vraiment, c'est un nombre restreint de molécules qui ont cette capacité. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que l'adénosine est finalement une molécule de communication intercellulaire qui est libérée de manière, j'allais dire non spécifique, mais disons qui est libérée finalement par la grande majorité des terminaisons actives. Et que donc, c'est une sorte, en quelque sorte un signal d'activité synaptique globale. Alors, on revient un instant au lactate, parce que évidemment, c'est toujours la même question. Si je vous ai, pendant plusieurs leçons, je vous ai montré comment le glucose entre dans les astrocytes, et la question qui se posait, mais qu'est-ce que les astrocytes donnent aux neurones? Parce que c'est finalement eux les grands consommateurs, comme je vous ai montré lors de la première leçon. Idem pour le glycogène. Le glycogène est astrocytaire, c'est très bien qu'un signal neuronal le mobilise, mais que vont fournir les astrocytes aux neurones? Eh bien, là aussi, et ce n'est pas une grande surprise, c'est du lactate. C'est des travaux notamment de Dringen, il y a quelques années, qui ont très bien montré que vous avez ici, en parallèle à la baisse de glycogène, vous avez ici différentes manipulations qui baissent les niveaux de glycogène, eh bien, en miroir, vous avez l'apparition de lactate dans le milieu extracellulaire. Et vous avez ici une autre représentation graphique de cette idée. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que la mobilisation de glycogène aboutit, c'est une autre manière de produire du lactate, si vous voulez, pour les neurones. Et on a vu lors des dernières leçons comment ce lactate peut ensuite être transformé en pyruvate et fournir de l'énergie aux neurones. Alors, ces travaux, aussi bien les nôtres que ceux de Dringen, ont été effectués essentiellement in vitro, ce qui a permis d'analyser au niveau moléculaire ces voies de signalisation et de régulation métabolique. Mais il y a quelques travaux qui ont mis en évidence, et notamment ceux de Ray Swanson, en fait, in vivo ou ex vivo, si vous voulez, par une technique analogue à celle du 2-déoxyglucose, de la radioautographie au 2-déoxyglucose, ils ont pu montrer qu'effectivement, lors d'une stimulation sensorielle, somatosensorielle, dans le cas particulier, donc on revient à cette voie que nous avons déjà vue lors des précédentes leçons en concernant le captage de glucose. Eh bien là, c'est une technique radiotographique qui permet de visualiser le glucose qui est incorporé en glycogène. Donc le signal rouge ou jaune correspond à une densité élevée de glucose associé à du glycogène, disons du glycogène pour simplifier. Et ce que l'on voit, c'est que lors de la stimulation des vibrisses, donc de cette voie des vibrisses au baril, eh bien, il y a une diminution de ce signal radio-autographique associé au glycogène, ce qui montre bien que une activation physiologique, ou relativement physiologique, c'est l'activation de ces vibrisses, l'activation d'un circuit neuronal va aboutir à la mobilisation de glycogène qui, lui, est, on le sait, essentiellement glial. On voit donc là un autre exemple de ce couplage neurométabolique neurone-astrocyte par lequel un signal neuronal, une activation physiologique, mobilise des substrats énergétiques au niveau astrocytaire. Et bien que cela n'ait pas été mesuré in vivo, on peut en déduire sur la base des données in vitro que ce glycogène mobilisé va produire du lactate pour l'environnement neuronal. Alors, sur la base là, je vais vous montrer quelques diapositives qui résument un tout petit peu ce que l'on a vu, vraiment dans une sorte de flash, en termes de couplage neurométabolique à la base de la neuroénergétique. Vous avez ici tous les acteurs de ce couplage, le capillaire, source d'énergie, de glucose et d'oxygène, une terminaison présynaptique, ici un neurone postsynaptique avec une épine dendritique, donc le lieu de l'activité synaptique, et puis l'astrocyte avec ces voies métaboliques que l'on a bien vues, le captage de glutamate, la sodium-potassium ATPase, pardon, le captage de glucose, la sodium-potassium ATPase, etc. L'activité mitochondriale, sur laquelle j'ai bien insisté la dernière fois, parce que, comme je vous l'ai dit, finalement, les données qu'on avait fournies au début de nos travaux, évidemment, nous ont fait mettre l'accent sur l'activité glycolytique de l'astrocyte, mais nous n'avons jamais dit qu'il n'y avait pas d'activité oxydative. Il y a bien des mitochondries et il y a une activité oxydative. Comme vous vous souvenez, le point d'interrogation est de savoir pourquoi, lors du captage de glucose et de sa transformation en pyruvate, ce pyruvate est plutôt exporté sous forme de lactate qu'oxydé au niveau de la mitochondrie. Et je vous ai fourni toute une série d'hypothèses et même de résultats dans certains cas qui expliquent cette glycolyse aérobie, donc cette glycolyse en présence d'oxygène, en présence de capacité oxydative. Voilà donc la situation, on va dire au repos, pour ce que veut dire repos pour le cerveau. Et puis, activité synaptique avec libération de glutamate. Je ne reviens pas sur le point fondamental que le fait d'étudier la neuroénergétique en relation au glutamate a tout de même un sens du point de vue quantitatif dans la mesure où 85% des synapses sont glutamatergiques dans le cortex. Donc libération de glutamate, activation de récepteurs postsynaptiques, AMPA, NMDA, dissipation de gradients électrochimiques, notamment sodiques, et on a vu, ça ce sont ces travaux de Kazishke, où je crois que c'était la dernière fois ou la fois d'avant, j'ai abordé la séquence d'événements qui pourraient être mis en jeu. Utilisation par le neurone de substrats présents dans l'espace extracellulaire, et je crois que je vous ai montré assez, de manière, j'espère, assez convaincante, que les neurones préfèrent très nettement le lactate au glucose. Peuvent utiliser les deux, mais en présence des deux, ils préfèrent le lactate. Ce lactate est rapidement oxydé au niveau neuronal. Donc c'est le temps numéro 1, si vous voulez, le temps très précoce, immédiatement lors de l'activation, qui se passe probablement dans des temps qui sont beaucoup plus proches des temps synaptiques, des constantes de temps synaptiques. C'est peut-être pas de l'ordre de la milliseconde, mais c'est en dessous de la seconde, on va dire. Et puis ce phénomène qu'on a décrit, qui est la signalisation astrocytaire par le glutamate, par le transporteur, je ne rentre pas dans les détails, on a vu toutes ces cascades en détail, qui aboutit à la production de lactate qui va finalement fournir du nouveau substrat au niveau de l'espace extracellulaire en vue, on va parler comme ça, d'activité synaptique subséquente. Donc le deuxième temps, le temps glycolytique, qui implique l'astrocyte. Et puis, finalement, cette autre dimension qui est la capacité de mobiliser du glycogène qui aboutit à la production de lactate aussi pour fournir, pour rétablir ce pool de lactate extracellulaire. Cette mobilisation de glycogène induite par la noradrénaline de manière globale à travers le cortex, par le VIP de manière beaucoup plus précise et localisée, probablement en relation à l'activation de modalités spécifiques, et puis l'adénosine, quelque chose qui est probablement, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas dire non spécifique, mais disons qui est un reflet, si vous voulez, de l'activité, un reflet post-hoc, on va dire, de l'activité synaptique. Donc voilà comment on pourrait envisager tous ces événements que je vous avais décrits en détail, qui finalement, dont le but est de fournir de l'énergie aux neurones, sous forme en tout cas d'ATP. Là je n'ai pas abordé, mais on l'a bien développé les dernières fois, aussi le rôle de l'astrocyte pour fournir des équivalents réducteurs, pour maintenir le potentiel redox du neurone et sa capacité à neutraliser les radicaux libres, le stress oxydatif lié à l'activité synaptique et en particulier à la forte activité oxydative du neurone. Mais, il y a une autre dimension temporelle et qui pour nous a été vraiment une voie qu'on a explorée au cours de plusieurs années à partir d'une observation tout à fait anecdotique, à partir d'une erreur, on va dire. Comme je l'ai dit dans ma leçon inaugurale, parfois les erreurs sont fertiles et peuvent porter à observer, à mettre en évidence quelque chose que l'on n'aurait jamais observé sinon. En fait, l'erreur est la suivante. Ce que ce petit panneau montre, c'est l'activité glycogénolytique du VIP ou de la noradrénaline qui se produit, qui s'exprime en quelques secondes ou minutes. Il s'agit de ceci. Donc vous voyez que je vous ai parler de beaucoup, de quelque chose qui, je pense, est important, mais lorsque, du point de vue quantitatif, on compare cet effet glycogénolytique, ça, ce sont les niveaux de base de glycogène dans des cultures d'astrocytes ou des tranches de cortex, et voilà l'effet glycogénolytique. Et puis, Olivier Sorgue, qui était un doctorant dans mon laboratoire à l'époque, vous voyez que c'est il y a plusieurs années, juste pour la petite histoire, c'était la fin de la journée, il avait commencé une manip, et puis il s'est souvenu qu'il avait une leçon de basson, et donc il s'est dit, pas grave, je ne vais pas arrêter la manip ici, je reviens demain matin, de toute façon le glycogène va être dégradé, et puis voilà, il n'y a rien que de particulier qui va se passer. Il est parti, il est revenu le lendemain matin, et puis il a mesuré ses niveaux de glycogène, là. Et il s'est dit, oula, il y a une... Enfin, voilà, il était très, très perturbé par la question. Enfin, on en a rediscuté, et puis bon, on a reproduit, étudié, etc. Et on a, en fait, clairement mis en évidence ce que l'on a appelé à l'époque un effet rebond, si vous voulez, un effet glycogénolytique à court terme, rapide, et un effet massif qui aboutit à des niveaux de glycogène qui sont 10 fois supérieurs au niveau de base sur le long terme, après plusieurs heures. Alors, je vais vous montrer quelques résultats de ces manips de l'époque. Alors évidemment, tout ça nous a fait penser à l'insuline, l'hormone périphérique qui induit la resynthèse de glycogène, l'hormone anabolique par définition, c'est bien l'insuline. Et nous avons observé, je vous montre à titre, je ne dis pas anecdotique, parce que finalement, on ne sait pas trop qu'en faire de ce genre de résultats, dans la mesure où... le rôle de l'insuline dans le système nerveux est très discuté. D'abord, il n'y en a pas vraiment, enfin en tout cas les observations sont assez floues par rapport à sa présence ou absence. Et puis, c'est un gros peptide qui ne passe pas très facilement la barrière hémato-encéphalique, enfin il peut dans ces zones un peu perméables. Enfin, donc, lorsqu'on met en évidence un effet in vitro de l'insuline, on peut toujours se poser la question. C'est peut-être un effet plutôt insulin-like growth factor. Mais enfin, voilà, il y a un effet de l'insuline. Ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, il n'y a pas une glycogénolyse avant. C'est bien évident que l'insuline n'exerce qu'un effet de resynthèse. Voilà, juste au passage. Mais j'aimerais vous montrer, c'est que donc vous avez ici les niveaux contrôle, les niveaux en présence après 9 heures de VIP, après 9 heures de noradrénaline. Et vous voyez qu'en fait, cet effet du VIP et de la noradrénaline est complètement bloquée par la cycloeximide et dans d'autres résultats, nous avons montré aussi par l'actinomycine D. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça passe, cet effet décalé dans le temps, c'est peut-être pas étonnant, mais enfin, il fallait quand même le montrer, passe par l'induction de la transcription et de la traduction. Donc, c'est une induction de gènes qui aboutit, qui met l'astrocyte dans un état différent, dans un phénotype différent, qui est la resynthèse de glycogène. Donc, il y a induction de gènes qui aboutissent à la resynthèse de glycogène. On a des effets analogues avec l'adénosine, là aussi, niveau basal, niveau en présence d'adénosine, après plusieurs heures, je crois 8 heures. C'est tellement macroscopique qu'on peut même mettre en évidence du glycogène par une technique absolument basique, une technique histochimique basique qui est la méthode PAS, Periodic Acid Shift. C'est comme ça qu'on monte du glycogène dans le foie. Dans le cerveau, on n'arrive pas vraiment à le montrer, même pas dans les cultures, mais après traitement avec l'adénosine ou le VIP ou la noradrénaline, on le voit. Donc c'est vraiment quelque chose de massif, je crois que je n'ai pas besoin d'insister là-dessus. Idem, l'effet de l'adénosine est aussi bloqué par les inhibiteurs de la transcription et de la traduction. Donc ceci nous a amené à postuler une séquence d'événements qui était de se dire, voilà, par le biais de récepteurs, on a bien vu qu'il s'agit de récepteurs, et en fait, au passage, j'aimerais souligner que l'effet de la noradrénaline, je vous ai dit que l'effet glycogénolytique était aussi bien bêta que alpha. Par contre, l'effet d'induction de la resynthèse est uniquement bêta, donc AMP cyclique dépendant, comme évidemment le VIP qui n'agit que sur ce type de récepteurs couplés à l'AMP cyclique et l'adénosine également. Donc, ce que nous avons déduit, c'était tout simple, c'est qu'il y a des mécanismes réceptoriaux qui activent la cascade de la formation d'AMP cyclique, qui induit, ce qui est bien connu, des effets à court terme, c'est-à-dire la phosphorylation d'enzymes existantes qui aboutit en quelques secondes et quelques minutes à une glycogénolyse. Mais en même temps, cette formation d'AMP cyclique enclenche un programme transcriptionnel, traductionnel, induction de gènes, qui aboutit à des effets à long terme qui s'expriment sur plusieurs heures, qui sont en fait la resynthèse massive de glycogène. Bon, alors on s'est dit, nous allons essayer de disséquer ce mécanisme, cette cascade d'événements moléculaires, quels sont les facteurs transcriptionnels qui sont mis en jeu pour l'induction, pour la mise en route de ce programme transcriptionnel, et quels sont les gènes qui sont induits, et puis finalement, quel est le rôle physiologique de cette resynthèse de glycogène? Si on peut saisir quelle peut être la fonction, le rôle physiologique de la glycogénolyse, je vous ai discuté, c'est-à-dire la resynthèse, la mise à disposition de substrats énergétiques lors de l'activité, la question peut se poser de quel est le rôle de cette resynthèse massive? Quelle est la fonction physiologique? Bien, on peut très bien se dire que peut-être c'est tout simplement pour pouvoir exercer l'effet à court terme, il faut qu'il y ait du glycogène. Et donc ce programme transcriptionnel est là de manière, si vous voulez, tonique pour faire en sorte que le glycogène soit synthétisé. Mais on verra qu'en fait, il y a plus que ça. Il y a, je pense, une fonction physiologique de cette resynthèse de glycogène qui nous a beaucoup surpris et qui nous intéresse beaucoup en ce moment. Alors je vais y arriver petit à petit. Donc première étape, régulation transcriptionnelle. Alors pour toutes sortes de raisons, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais finalement nous avons exploré différentes possibilités et avec Jean-René Cardinaux, il y a quelques années, nous avons mis en évidence le rôle d'une famille de facteurs transcriptionnels, CEBP, dans cette resynthèse de glycogène. Alors, juste quelques résultats pour documenter tout ça. Vous avez ici la détermination de l'expression d'ARN messager par Northern Blot pour CEBP bêta. Vous voyez, après le VIP, après 1 heure, 2 heures, 3 heures, vous avez ici CEBP delta. Et lorsqu'on rapporte ceci sur un graphique, on voit que le VIP induit un pic d'expression de CEBP bêta qui a son apogée vers 2-3 heures. Vous vous souvenez que la resynthèse de glycogène, en fait, augmente de manière plus ou moins linéaire sur 9 heures. Donc, voilà un phénomène précoce, ce qui serait attendu pour le déclenchement du programme, pour ce qu'on attendrait d'un facteur transcriptionnel. Et puis, pour CEBP delta, là, de manière plus surprenant peut-être. En fait, l'effet aussi rapide, en une heure ou deux, il y a un pic, mais il est maintenu. Donc, en tout cas, un facteur transcriptionnel qui est induit dans des temps qui sont compatibles avec un rôle d'induction du programme qui aboutirait à l'induction de gènes qui aboutirait à la resynthèse de glycogène. Ça ne montre pas encore que c'est CEBP bêta et delta. Alors voilà, là on voit en fait des astrocytes et on voit ici le noyau qui exprime l'immunoréactivité de CEBP bêta ou de delta. Et puis juste un tout petit peu de pharmacologie, je ne vais pas m'étendre trop longtemps, mais simplement vous remarquez que l'isoprotérénol, qui est un agoniste bêta, induit CEBP. Par contre, la méthoxamine, un agoniste alpha, n'a aucun effet. Et que, en miroir, des antagonistes bêta vont bloquer l'effet de la noradrénaline, alors que des antagonistes alpha ne l'inhibent pas. Donc, c'est bien un effet bêta-adrénergique qui est le même, si vous voulez. La pharmacologie est la même que celle de l'induction du glycogène par la noradrénaline. Et puis là, une manip un tout petit peu plus parlante par rapport au rôle de CEBP, Jean-René Cardinaux avait fait des constructions intéressantes, c'est-à-dire des formes qui sont transcriptionnellement actives, LAP, ou inactives, LIP, de CEBP. Ce sont des constructions qui avaient été décrites pour les effets périphériques. Jean-René les a refaites, et on a transfecté des cellules, des astrocytes, avec la forme active ou inactive. Et ce que l'on voit, c'est qu'en fait, la forme active induit une resynthèse de glycogène, alors que la forme inactive, n'a essentiellement pas d'effet. Et avec la forme active, on retrouve pratiquement l'effet, ou même plus, de CEBP. Donc, ceci nous met quand même sur la piste pour dire, et en fait, je réalise en reprenant ces anciennes données, je me suis dit qu'avec les outils actuels, on pourrait le montrer même de manière encore plus directe avec des siRNA. Mais clairement, je pense que CEBP est le facteur transcriptionnel, en tout cas un des facteurs transcriptionnels qui serait impliqué dans cette première étape. Et on sait d'ailleurs que ces facteurs transcriptionnels sont CAMP dépendants. Donc voilà pour ce qui est de la première étape. Donc l'AMP cyclique est formée. Il va induire des effets à court terme et enclencher un programme transcriptionnel qui est médié en tout cas par CEBP, peut-être par d'autres facteurs transcriptionnels, mais en tout cas par la famille de facteurs transcriptionnels CEBP. Reste la question de quels sont les gènes que ces facteurs transcriptionnels, dont ces facteurs transcriptionnels induisent, induisent la transcription. Et bon, là, il y a différents candidats. Évidemment, là, vous avez une représentation du métabolisme du glycogène. On l'avait déjà vu lors de la petite révision qu'on a faite des voies métaboliques. Donc voilà le glucose qui entre par les transporteurs au glucose. Il est première étape. Vous vous souvenez, c'est de la phosphorylation par l'exokinase. Le glucose 6-phosphate est vraiment la voie de passage obligée pour utiliser le glucose. D'ailleurs, juste en passant, vous vous souvenez que je vous avais dit que c'est en fait intéressant parce que pour utiliser du glucose, il faut investir de l'énergie. Il faut investir en fait 2 ATP. Alors que pour utiliser du lactate, il n'y a pas besoin d'investir de l'énergie. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le lactate est un substrat énergétique intéressant pour les neurones. Donc ce glucose, 6-phosphate, vous voyez, il est au centre de cette... C'est vraiment une voie de triage. Il peut rentrer soit dans la glycolyse, par une autre phosphorylation, par la phosphofructokinase, soit rentrer dans le chêne des pentoses, on a vu ça tout à l'heure, les leçons précédentes, qui va produire en particulier ces équivalents réducteurs. Et puis, la possibilité de stocker ce glucose sous forme de glycogène. Et là, il y a tout un ensemble d'enzymes qui modulent de manière très efficace ces voies de synthèse ou de dégradation du glycogène. Et juste en deux mots, donc le glycogène, on l'a vu, c'est un polymère de glucose, si vous voulez, c'est des unités glycosyles mises les unes à côté des autres, avec des liens 1,4 ou 1,6, bon ça c'est pas très important. Ce qu'il faut savoir, et ça nous a beaucoup intrigué, pour l'instant on n'a franchement rien trouvé d'intéressant, mais il faut savoir qu'il y a une protéine qui est la glycogénine, qui joue le rôle de noyau de cristallisation, si vous voulez. C'est vraiment une molécule qui est indispensable pour enclencher la synthèse de glycogène, pour faciliter la position de groupes glycosyles les uns à côté des autres. Mais pour l'instant, en tout cas, je peux vous dire que vous anticipez que la glycogénine, dont on aurait pu imaginer qu'elle jouait un rôle important dans la resynthèse de glycogène et qui aurait peut-être été un des gènes cibles de CEBP, en fait, non, elle ne bouge pas. Et puis, il y a la glycogène synthase, bien sûr, qui pourrait être induite, c'est un candidat particulièrement évident. Et par contre, ce candidat-ci semble être très important. Et nous, en fait, je pensais que tout était connu sur le glycogène, mais figurez-vous qu'il y a une dizaine d'années, une nouvelle molécule, une nouvelle enzyme dans cette voie de synthèse du glycogène a été mise en évidence à la périphérie. C'est PTG, Protein Targeting to Glycogen, dont je vous parlerai dans un instant parce qu'elle est vraiment au centre de cette voie de resynthèse. Donc, et puis bien sûr, la glycogène phosphorylase, mais dont on s'attend pas qu'elle soit active dans la resynthèse, parce que c'est l'enzyme qui va cliver les différentes unités glycosyles pour mobiliser le glucose en glucose 6-phosphate, qui peut ensuite entrer dans les différentes voies métaboliques. Donc, on va se concentrer là-dessus, PTG, un peu énigmatique, et glycogène synthase, évident, connu depuis une cinquantaine d'années. Alors, dans des manips initiales, nous avions vu que, en fait, il y a une légère induction de la glycogène synthase, mais pas très importante. On était un petit peu sur notre faim, si je puis dire, jusqu'à ce qu'on s'intéresse justement à PTG, à Protein Targeting to Glycogen, qui est en fait une protéine, comme je vous l'ai dit, qui a été découverte il y a une dizaine d'années. C'est en fait une sous-unité catalytique d'une protéine phosphatase, la protéine phosphatase 1C, qui déphosphorise les enzymes impliquées dans le métabolisme du glycogène. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que la glycogène phosphorylase, lorsqu'elle est déphosphorylée, elle est moins active. Donc, si vous rendez la phosphorylase moins active, vous allez inhiber la glycogénolyse, la dégradation du glycogène. Inversement, la glycogène synthase, lorsqu'elle est phosphorylée, elle est moins active. Lorsqu'elle est déphosphorylée, elle est plus active. Donc, juste pour résumer, si soudainement il y a une stimulation des phosphorylations, notamment par l'AMP cyclique et la protéine kinase A, la phosphorylase va être active et la synthase va être inhibée, donc glycogénolyse. Par contre, si la phosphorylation est diminuée, notamment par l'activation de phosphatase, eh bien la phosphorylase va être moins active et la synthase va être plus active. Or, ce que fait PTG, en fait, c'est justement d'induire cette déphosphorylation qui va rendre la glycogène synthase plus active. Donc en fait, si vous voulez, le PTG, la protéine targeting to glycogen, est une protéine de 33 kilodalton qui favorise l'association de cette phosphatase, protéine phosphatase 1C, avec des particules de glycogène. Elle forme également un complexe spécifique avec d'autres enzymes qui sont régulées et qui contrôlent le métabolisme du glycogène. Donc si vous voulez, ce que fait protein targeting to glycogen, c'est une sorte de protéine chaperon, c'est une sorte de, bon, on l'a appelé également molecular scaffold, une sorte d'échafaudage moléculaire qui met ensemble toute une série d'enzymes qui sont fondamentales pour le métabolisme du glycogène et en particulier pour la resynthèse de glycogène. D'ailleurs, si PTG est surexprimé, par exemple, dans des cellules hépatiques, eh bien, ces hépatocytes vont utiliser tous les substrats énergétiques, y compris des acides gras, pour aller vers la resynthèse de glycogène. En d'autres termes, PTG est vraiment une molécule qui, lorsqu'elle est surexprimée ou active, ou plus active, va faire en sorte que la cellule se met dans un mode de resynthèse de glycogène plutôt que d'utilisation du glycogène, pour simplifier. Alors, nous avons mis en évidence PTG, le messager, dans différentes régions du cerveau. Et là, nous avons vu alors une induction très importante de PTG par la noradrénaline, de manière dépendante de la concentration, avec des effets déjà autour du nanomolaire, 3-10 nanomolaires, avec des cours temporels de nouveau tout à fait compatibles avec quelque chose qui anticipe, qui arrive avant la resynthèse de glycogène. Vous voyez, déjà à 2 heures, il y a une très forte induction de PTG. Et là aussi, ça implique la transcription, la traduction. Je ne vais pas vous le détailler, mais on a repris tout le panel d'expériences qui nous a permis de dire que, effectivement, PTG joue un rôle important, clé même, dans la resynthèse de glycogène, la pharmacologie par exemple. De nouveau, voilà l'effet de la noradrénaline sur le messager de PTG. Il est mimé par le propranolol, bêta-adrénergique. Il est inhibé en partie par le propranolol, bêta-adrénergique, pas du tout inhibé par un antagoniste alpha, idem ici, mimé par un agoniste bêta, pas d'effet d'un agoniste alpha. Donc, très clairement, une pharmacologie de la noradrénaline compatible avec les effets sur le glycogène. Et je monte l'adénosine parce que ça a une importance dans ce que je veux vous dire après sur le rôle physiologique. Là aussi, je ne rentre pas en détail, mais vous voyez que l'adénosine induit CEBP, bêta, delta et PTG. Donc, quand on reprend tout ça, on se dit, voilà, le gène de... attendez, encore une chose, excusez-moi. Il y a clairement, PTG est induit par la noradrénaline, le VIP et l'adénosine. Et comme je vous l'ai dit, ce PTG, lorsqu'il est induit, il va faciliter l'association de cette protéine phosphatase, notamment avec la glycogène synthase. Et lorsque cette phosphatase est active, la synthase est plus active et donc va favoriser la synthèse de glycogène. Alors nous avons mesuré l'activité de la glycogène synthase directement, aussi bien dans des astrocytes qui avaient été exposés à la noradrénaline, et 9 heures après, vous voyez qu'il y a une induction massive de l'activité, cette fois-ci, de la glycogène synthase. Donc, tout ce faisceau de données converge vers le mécanisme suivant, donc je ne reviens plus sur l'effet à court terme, sur l'effet à long terme qui active le programme transcriptionnel médié par CEBP, qui aboutit à une induction massive de PTG, qui va augmenter de manière très importante l'activité de la glycogène synthase, et ceci va mettre l'astrocyte dans un mode qui est un mode de resynthèse de glycogène tel qu'il est illustré ici. Voilà, tout ça nous a pris quelques années, et on était contents, ça fait des papiers, une ou deux thèses, mais finalement, on s'est dit, à quoi ça rime? Quelle est la fonction de cette resynthèse de glycogène? Et c'est là que on a beaucoup réfléchi, et finalement, on a suivi une piste qui, vraiment au début, n'était pas une piste que nous avions, à laquelle nous avions pensé, qui est un rôle de cette resynthèse de glycogène dans le cycle veille-sommeil. Alors, si vous voulez, depuis toujours, si vous voulez, probablement même depuis l'Antiquité, l'idée que le sommeil a une fonction réparatrice, si on prend du point de vue métabolique, une fonction anabolique, où le métabolisme va plutôt vers le stockage d'énergie ou la récupération que vers l'utilisation qui est le propre de l'éveil, si vous voulez. Et donc, il y a eu différentes formulations, mais une formulation récente, il y a une dizaine d'années, qui a été maintenant reprise par un certain nombre de chercheurs, cette hypothèse anabolique, si vous voulez, de Bennington et Heller, c'est de se dire, voilà, pendant l'éveil, il y a une glycogénolyse permanente, VIP, noradrénaline, adénosine, ce que je vous ai montré, ce que nous avions montré, et que finalement, quelque part, il s'accumule une sorte de déficit énergétique au cours de la de la journée, parce qu'il y a cette mobilisation d'énergie et peut-être une reconstitution des stocks qui ne suit pas nécessairement. Et eux ont particulièrement mis l'accent sur le fait, et ça a été mesuré d'ailleurs par différents chercheurs, notamment Porcka et Scannen, des groupes de Boston, Hobson et autres, à une augmentation de la libération d'adénosine. Et cette adénosine, si vous voulez, la charge énergétique, on va dire, du cerveau diminuerait avec un rapport ATP-adénosine en faveur de l'adénosine, et que cette adénosine, en stimulant des récepteurs adénosine A1 et modulant l'activité de certains canaux potassiques dans les neurones de noyau thalamique, favoriserait, si vous voulez, ce qui est typique du sommeil, la production d'une synchronisation et d'un EEG, donc avec des ondes qui sont plus grandes et plus synchronisées par rapport à un EEG de veille qui est en fait très désynchronisé. Donc leur idée, c'est que finalement ce déficit métabolique aboutirait à, et là ils font une hypothèse, disons, à un phénomène électrophysiologique qui favorise la synchronisation, donc l'induction de sommeil, et que cet état de synchronisation, de sommeil, permettrait la resynthèse, notamment de glycogène, le rétablissement de stocks énergétiques. Voilà l'hypothèse anabolique dans une formulation qui en vaut une autre, mais disons, qui est claire, qui est une ligne très claire, c'est l'anabolisme. Eh bien, nous nous sommes posé une question, enfin, en tout cas, on a pris à 180 degrés cette question. On s'est dit, mais peut-être que ce n'est pas tout à fait ça. En fait, la glycogénolyse à court terme ne déclenche pas nécessairement un déficit énergétique, mais par contre, là, on le sait, elle va induire un programme transcriptionnel sur quelques heures. On l'a démontré. Donc, chaque fois qu'il y a du VIP qui est libéré, de la noradrénaline qui est libérée, de l'adénosine qui est libérée, il y a cet effet glycogénolytique, mais CEBP va être induit, PTG va être induit, et petit à petit, c'est notre idée, au cours de l'éveil, à la fin de l'éveil, on se trouve dans un état où PTG devrait être fortement induit parce qu'il y a eu ces activations de récepteurs VIP, bêta-adrénergique et A2 qui mettent, si vous voulez, l'astrocyte dans un état ou dans un mode de resynthèse de glycogène. On pourrait dire qu'en fait, il y aurait une modification de la plasticité, il y aurait une plasticité du flux de glucose astrocytaire vers le glycogène. Et c'est là notre hypothèse, que cette condition métabolique du cerveau, et du cortex en particulier, serait un terrain favorable pour l'induction de sommeil. Et que ceci induirait la synchronisation des EEG. Donc vous voyez que c'est une hypothèse, je ne dis pas inverse, mais disons qui est à contre-pied par rapport à l'hypothèse anabolique. En partant des mêmes observations, nous voyons dans l'induction du glycogène un phénomène actif qui, sur plusieurs heures, va mettre le cerveau, le cortex, dans un état ou l'astrocyte, en fait, de resynthèse de glycogène et donc de moindre utilisation de glucose pour la glycolyse. Alors, nous avons testé cette hypothèse. Nous avons, en fait, mesuré l'activité des souris. Maintenant, nous avons aussi les analyses EEG. Ça, c'est des résultats il y a 2-3 ans de Jean-Marie Petit au laboratoire. Donc, comme vous le savez, pendant la journée, la lumière, les animaux sont peu actifs. Pendant la nuit, les souris sont très actives. Et nous les avons sacrifiées à différents moments du temps circadien, soit pendant la phase de lumière, donc de repos pour elles, soit pendant la phase d'activité, donc la phase d'obscurcissement. Et nous avons également, si vous voulez, prolongé cette phase d'activité par une déprivation de sommeil de 6 heures, et ensuite nous avons étudier l'effet d'une récupération sur d'autres animaux, bien sûr, sur l'expression de PTG. Alors, d'abord, nous avons observé, en fait, une variation circadienne dans le cortex cérébral de souris de l'expression de PTG. Vous voyez que ici, à la fin de la période de lumière, donc de sommeil, si vous voulez, où le sommeil est plus prépondérant chez ces souris. Comme vous savez, elles ont des activités, c'est très fragmenté, mais en fait, disons, globalement, si on fait une addition des épisodes de sommeil, ils sont beaucoup plus fréquents dans la phase de lumière que d'obscurité. Et puis l'actimétrie parle d'elle-même. Donc si à la fin de la période de repos, de sommeil, les niveaux de PTG sont plus bas qu'en début de repos pour eux, par contre, à la fin de la période d'éveil, d'activité, ils sont légèrement plus élevés. Alors ce que l'on a fait, comme je vous l'ai dit, on a poussé l'éveil en faisant une déprivation non stressante, une déprivation de sommeil sans stress. Et vous voyez que PTG, après 6 heures de déprivation de sommeil, donc on a prolongé de 6 heures la phase d'éveil, PTG est fortement augmenté, c'est même visible de manière semi-quantitative par radio-autographie. Et ce que l'on a fait dans des manips complémentaires, on a mesuré l'activité de la glycogène synthase dans des tranches de cortex préparées à partir de souris qui avaient été soit déprivées de sommeil pendant 6 heures, soit, dans d'autres évidemment, déprivées et ensuite 3 heures de récupération. Et on a mesuré l'activité de la glycogène synthase, donc ça indique la capacité, l'état métabolique du cortex pour synthétiser du glycogène à partir de glucose. Eh bien, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, la déprivation de sommeil induit de manière très importante l'activité de la glycogène synthase et que il y a une conséquence fonctionnelle de cette induction de PTG et que, en fait, la récupération de 3 heures remet les niveaux d'activité de la glycogène synthase à des niveaux qui seraient analogues dans un même temps circadien, donc 6 plus 3, donc à ZT 9. Donc on voit qu'il y a clairement un phénomène, une plasticité, si vous voulez, j'aime bien ce terme, de plasticité métabolique que je vais élaborer tout à l'heure et lors de la prochaine leçon. Il y a une plasticité métabolique évidente liée au métabolisme du glycogène pendant le cycle veille-sommeil, et en particulier, on peut la perturber, on peut la modifier des manipulations comme déprivation de sommeil ou récupération. Alors, notre position actuelle, et on continue là-dedans, et pour l'instant, les résultats que l'on obtient vont dans cette direction, on pourrait se dire qu'à la fin de la période d'activité, en fait, la libération soutenue de VIP, de noradrénaline, d'adénosine, a enclenché ce programme transcriptionnel qui va aller vers l'induction de PTG. Cette induction de PTG va induire l'activité de la glycogène synthase et que donc les astrocytes, à la fin de la période de veille, se trouvent dans un mode qui va être celui de stocker le glucose en glycogène plutôt que de faciliter la glycolyse et la production de lactate, comme on l'a vu. Donc, dans une position par laquelle, si vous voulez, l'astrocyte va finalement fournir un peu moins d'énergie aux neurones parce que ce glucose va être stocké plutôt qu'utilisé pour produire du lactate. Et l'idée, c'est que finalement, dans ce mode métabolique, dans ce phénotype métabolique de l'astrocyte à la fin de la période de veille, ceci va être un signal. Alors, on ne va pas dire un signal, je ne pense pas, pour l'instant en tout cas, on ne peut pas le dire, que c'est un signal d'induction de sommeil, mais en tout cas un signal, un terrain qui est métaboliquement favorable pour l'induction de sommeil. Et si vous voulez, cette hypothèse se marie assez bien avec l'hypothèse homéostatique de la régulation veille-sommeil, comme vous le savez, qui a été notamment formulée par mon collègue Alex Borbelli à Zurich, selon laquelle, finalement, pendant la période d'éveil, il y a des processus homéostatiques qui sont au fond, des processus physiologiques plutôt qui sont qui prennent une certaine direction, c'est processus S, enfin c'est pas très clair, mais que en fait il y a ensuite que le sommeil participe à une contre-régulation, une homéostasie qui permet de rétablir ces valeurs, ces processus qui se sont. Alors, il y a différentes formulations, des molécules qui se seraient accumulées pendant l'éveil ou des processus particuliers qui se seraient produits pendant l'éveil et qui nécessitent un rétablissement. Donc, ceci va dans une hypothèse homéostatique, c'est-à-dire que plus, par exemple, l'éveil dure, plus PTG sera induit, plus le cerveau sera dans, le cortex sera dans un état qui favorise la resynthèse de glycogène et donc la pression de sommeil, ça c'est moi qui le dis, mais on sait que la pression de sommeil est beaucoup plus grande si on prolonge la période de veille, je veux dire, on a tous testé ça. Donc, voilà cette idée. En fait, on est en train de travailler là-dessus en ce moment, mais en particulier, nous explorons une voie pharmacologique en se disant, mais finalement, si on inhibe la mobilisation de glycogène, par exemple en inhibant la glycogène phosphorylase, cette fois-ci, eh bien on pourrait influencer la durée de sommeil, dans la mesure où si on mobilise moins de glycogène, on va se retrouver dans un état analogue à celui que je viens d'écrire à la fin de la période de veille avec PTG induit. Et en fait, les résultats préliminaires sont assez encourageants. Donc, voilà pour ce qui est du glycogène. J'ai terminé là. Et je vais juste introduire un chapitre que je vais développer dans la prochaine leçon, qui nous a été inspiré, finalement, quelque part, par ces observations sur le glycogène. J'ai utilisé déjà une fois le terme de plasticité métabolique. Ça montre bien que ce couplage neuroglial, ce couplage, cette activité de ce que j'ai appelé l'unité neuroénergétique, astrocyte neurone, n'est pas quelque chose de figé. C'est quelque chose qui peut être sujet, c'est pas étonnant, comme tout phénomène, comme tout processus biologique, à des régulations, à des modifications de l'efficacité. Et ceci nous a un petit peu ouvert les yeux en se disant, voilà, est-ce que cette unité neuroénergétique, avec tous ces mécanismes que l'on a explorés, nous-mêmes et d'autres laboratoires, est-ce que c'est quelque chose qui est figé ou c'est quelque chose qui va s'adapter selon les différentes circonstances? Et en fait, nous avons formulé ce terme de plasticité métabolique. En d'autres termes, la question que nous posons est-ce que le couplage métabolique entre astrocytes et neurones est sujet à des mécanismes de plasticité? Et c'est là-dessus que je vais m'arrêter et on développera tout ça lors de la prochaine leçon qui est dans 2 semaines. Il y a, comme vous le savez maintenant, des relâches. Les 2 prochains mardis, il n'y a pas de cours. Voilà.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.